À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition,
chansons et gastronomie.
Bonjour Serge, bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors c'est la dernière émission de la saison, avant le bel été qui nous attend, espérons. C'est la dernière émission donc de À l'écoute de l'Italie sur Couleur FM, puisque les vacances approchent. Alors espérons que ces vacances soient positives pour tout le monde, que tout le monde essaye d'oublier un peu ce quotidien assez morose, on va dire, dont nous gratifie pas mal de gens, pas mal de médias, pas mal de journaux. Alors, on reprendra les émissions, je pense, l'année prochaine.
Toujours sur Couleur FM.
Toujours sur Couleur FM, bien sûr. Et puis Serge devient un habitué maintenant de cette émission. Je ne sais même plus si on peut le considérer comme un invité, hein, puisqu'il est là régulièrement.
Un invité permanent.
Quant à Laurent, il dort à Couleur FM, lui, donc on est sûr de le retrouver. Voilà, alors aujourd'hui on ne parlera peut-être pas finalement de politique, d'actualité politique. On va être un peu plus festif peut-être, ça fera pas de mal finalement. Alors que dire, ben, si avant cet été ou même pendant l'été, si vous avez un peu de temps, et dans la région vous avez une exposition qui est très intéressante qui s'appelle Lyon l'Italienne. C'est une exposition qui a lieu Place des Archives à Lyon, un Place des Archives, donc elle a lieu aux Archives de Lyon. Et elle est sur le thème de l'immigration italienne en région lyonnaise. C'est très axé Rhône, hein, c'est très axé aussi métier, les sculpteurs, aussi les artistes mosaïstes. Et les plâtriers, mais aussi des gens qui ont fait d'autres métiers, puis d'autres aspects, effectivement, de cette immigration italienne. Il y a des grands noms à Lyon, des grands noms connus, et qui sont en fait des gens d'origine italienne. Par exemple, les mosaïstes étaient frioulans, les Mora, les Facchina, c'était des frioulans, les Bertin aussi, Bertin étaient des frioulans. Dinalo, tout le monde connaît Dinalo,
ah bah oui.
En football, c'était
oui,
un
oui.
Un des descendants de Siciliens qui habitait beaucoup dans le quartier de Gerland. À une époque, il y avait presque 50% des habitants de Gerland qui étaient des immigrés italiens. C'est étonnant. Hein. Et puis, les glaciers, on est en plein été. Là, Nardone, le grand glacier lyonnais, c'est pas de la pub, hein, c'est simplement
non,
des gens connus.
Juste pour dire.
C'est lui aussi d'origine italienne, enfin, ses ascendants. Voilà, alors si vous pouvez aller voir cette expo, elle est très intéressante, elle est ouverte l'après-midi. Et puis, vous pouvez aussi assister à d'autres événements pendant cette année, des conférences, des projections, des colloques, et il y a aussi des...
Il y a peut-être un site internet, là
Oui, bien sûr, il y a des visites prévues, et vous pouvez aller sur le site des Archives de Lyon, tout simplement, hein, www.archives-lyon.fr. Vous pouvez vous renseigner aussi par téléphone au 04 78 92 32 50. Et sur cette Lyon l'Italienne, on parle aussi des événements liés à l'Italie sur la région. Et on parle du festival que va organiser INIS du 9 au 11 octobre en Nord-Isère. Et puisque vous le savez maintenant, on l'a dit plusieurs fois, qu'on va organiser dans toute belle région de Nord-Isère avec quatre points Bourgoin pour tout ce qui est ateliers musicaux, avec la collaboration du conservatoire de l'ACAPI, conservatoire Hector Berlioz, et puis le CMTRA. Donc tout ça se déroulerait sur Bourgoin. Et puis des concerts qui se dérouleront à Villefontaine, à Maubec et puis à l'île d'Abeau, tout ça en partenariat avec aussi Nozick Productions. Voilà, ce festival va nous occuper, même l'été finalement. Hein. Donc Inis travaillera un petit peu cet été encore, comme souvent d'ailleurs, et pour la préparation de ce festival, qui est quelque chose d'assez long, mais qui devrait être assez intéressant. On compte sur les auditeurs de Couleur FM pour venir grossir le nombre des spectateurs. Donc un festival franco-italien, bien sûr. Voilà, alors pendant les vacances, ben, on a l'habitude, paraît-il, de lire un peu plus. Je ne sais pas si c'est confirmé.
Moi, je lis l'hiver plutôt, parce qu'il fait
nul. Toi, tu lis l'hiver. Ben, alors, tu liras l'hiver un bouquin qui devrait t'intéresser en plus. Vous savez que l'an passé, puisqu'on parle de festival, on avait participé en co-organisateur au festival de Rovigo, dont le thème était le Po et le Rhône. Mmh. Nous, on avait organisé la partie française. Eh bien, il y a un des grands connaisseurs du Po, qui est Paolo Rumis, qui est un écrivain, journaliste italien, qui a l'habitude d'écrire des bouquins à partir d'expériences qu'il fait, soit à pied, soit à vélo. Donc, il prend son temps. Voilà, on va dire que c'est quelqu'un qui prend son temps. Et là, il vient d'écrire un bouquin sur le Po. Alors, comment il a procédé? Il a décidé, bah, le Po prenant sa source dans le Piémont, il a fait tout le Po qui a traversé l'Italie jusqu'au Delta. Et cette fois, il l'a fait en bateau, en petite embarcation, barque, si on peut dire, un peu plus sophistiqué qu'une barque. Mais donc, il y a des endroits où il devait descendre la barque, enfin, il devait l'accoster, reprendre un peu plus loin, parce que ce Po, il a dit qu'il a redécouvert la splendeur du Po, qui malheureusement a été un petit peu laissé de côté par les autorités italiennes à une époque, notamment au moment de la grosse industrialisation et du développement des industries du Piémont, pour pas tout à fait soigné le Po comme il aurait mérité de l'être. Et malgré ces petits côtés, pas petits d'ailleurs, négatifs, Paolo Rumis dit que le Po, il y a redécouvert un silence et des endroits absolument magnifiques. Et il a aussi profité de ce moment pour rencontrer aussi des gens. Hein. Il aime bien rencontrer des gens qui ont pu lui raconter des tas d'histoires sur le Po, que ce soit des collectionneurs d'images, l'ami des vents, comme il l'appelle Fabio Fiori, l'ami des vents, un explorateur, Pierluigi Bellavite, un écrivain, Valerio Varesi, Francesco Guccini, le chanteur. C'est un voyage vraiment intéressant. Puis c'est un roman, si on peut dire, où on prend son temps, en fait, comme l'a fait Rumis. Alors, il existe en version originale, il s'appelle Morimondo, et il a été publié, donc là, en version originale, donc bien sûr, c'est en italien, mais le titre français, vous le trouverez, non pas la traduction littérale, mais Po, le roman d'un fleuve, dans les éditions Webec. Alors, si vous lisez l'italien, procurez-vous la version originale. Si vous lisez pas l'italien, il faut vous y mettre. Mais sinon, vous...
Dans les cours de l'INIS.
Voilà, dans les cours de l'INIS. Sinon, vous le trouvez donc en version française pour le roman d'un fleuve. Mais franchement, je vous le recommande. Parce que
j'ai pris contact avec l'Institut du Po, qui est à Parme, pour préparer une émission pour l'hiver prochain.
Eh bien, voilà. Quand je vous ai dit qu'elle n'est plus invitée, il est permanent... Je ne me trompais pas plutôt. Alors, puisque Serge est permanent chez nous, maintenant sur Couleur FM 97.1, on sait de quoi tu vas nous parler aujourd'hui,
oui,
puisque
ça a été
annoncé à l'émission du mois dernier. Alors, on est toujours dans ce fameux Mont-Cenis, passage du Mont-Cenis.
Donc l'année dernière, on avait parlé du passage du Mont-Cenis par la route. Donc là, on va compléter en s'occupant en parlant du passage du Mont-Cenis par le train. Alors, la route était plutôt utilisée pour des trajets locaux, le train pour un trajet, disons, des gens qui voyageaient sur des plus grandes distances. Donc, qui dit train dit tunnel. Alors, le premier tunnel qu'il y a eu dans le Piémont, entre le Piémont et la France, c'est pas le tunnel du Fréjus, c'est le tunnel de la Traversette, qui est sous le Viso, qui fait 82 mètres de long, et qui est juste pour passer un homme et un âne. C'était pour la, je pense, pour le transport du sel. Ensuite, il y a eu le tunnel que l'on connaît actuellement sous le Fréjuste. Et puis, il y aura le grand tunnel de 50 et quelques kilomètres dont on va parler après. Qui suscite quelques réactions, peut-être plus en Italie qu'en France. Donc on est face à trois chemins de fer différents, l'actuel qu'on connaît, un petit qui n'a pas duré longtemps, qui s'appelle le chemin de fer de Fell, dans la deuxième partie du 19e siècle, et puis on parlera aussi du futur train à grande vitesse, et que les Italiens qui n'aiment pas beaucoup, enfin ceux qui n'aiment pas ce train à grande vitesse, sont conférés dans une association qui s'appelle NOTAV, puisque le train à grande vitesse, c'est le Treno Alta Velocità.
Exactement.
Alors la ligne actuelle, on va redire deux mots de l'émission du mois dernier. Rappelez-vous, Napoléon qui fait la route, les marrons, c'est les autochtones qui portent les voyageurs à dos d'homme, les ramasses, ces grands traîneaux sur lesquels on mettait les gens pour les faire descendre à toute vitesse et freiner par une ou deux personnes. Donc pour sortir de tout cela, eh bien, on a pensé à faire un train. Parallèlement, une date, le premier train en France, c'est 1827. En Italie, c'est Milan-Monza ou en 1840. En 1846, c'est Milan-Treviglio. Treviglio, c'est une soixantaine de kilomètres de Milan. Et en 1846, alors une chose assez, pas étonnante, non, mais qui surprend pour nous Français très centralisateurs, puisque en 1846, l'Italie n'était pas unifiée. Non. Donc c'est la Toscane qui est le premier État italien qui est possédé un ensemble de lignes. Enfin, on imagine mal, à la même époque, la Gascogne ayant son réseau de chemin de fer. Et bien sûr, dans les mêmes dates, le Saint-Gothard. Donc en France, en 1856, il y a cinq lignes au départ de Paris, ce qui est différent de l'Italie, puisque là, les trains sont organisés par État. Alors, ce petit rappel étant fait, la ligne actuelle, alors je reconnais que ça m'a été un peu difficile à suivre quand j'ai préparé ça, parce que la ligne actuelle, elle a été inaugurée en 1871. C'est-à-dire peu de temps après l'unité. Mais elle a commencé en 1857, donc avant l'unité. Sous Victor Emmanuel. Et on a commencé à en parler en 1839. Donc on a une ligne de chemin de fer qui avait pour but de relier deux parties du royaume de Savoie, Chambéry et Turin. Et puis, à la fin, quand il est inauguré, il réunit deux États. Alors, les travaux ont démarré des deux côtés à la fois. Alors, si le viaduc de Millau a été construit avec des GPS, avec des choses aussi importantes que cela, pendant qu'il faisait le tunnel des deux côtés à la fois, s'est posé en permanence le problème de la rencontre entre les deux équipes françaises et italiennes. Donc, ils ont fait deux lignes, on va dire, obliques par rapport au sens du naturel. Et puis, ils ont relié ces lignes obliques simplement par une courbe.
D'accord.
Comme ça, ils ne risquaient pas de passer l'un à côté de l'autre. Enfin, on peut penser qu'ils s'en seraient aperçus avant de déboucher de l'autre côté. Mais
s'il faut recommencer, c'est un peu dur.
Voilà. Et en fin de compte, le doute est resté en permanence pendant toute la durée du chantier. Et avec les moyens de l'époque, l'écart vertical a été de 60 cm. Ce qui n'est pas quand même énorme, et l'écart horizontal de 40 cm.
Non, parce que maintenant, je crois qu'il y a des quais qui ne peuvent plus recevoir des voilà. Parce qu'ils sont trop larges. Alors, donc, ils avaient le droit à l'erreur.
C'était quand même assez fort. Alors, au début, le tunnel commence à être percé avec des techniques un peu archaïques. On ne peut pas dire qu'ils sont allés au marteau et au burin, mais quasiment à la barre à mine et à la poudre.
Et là, ils avançaient, ils progressaient de quelle distance, si je peux dire, par jour ?
Moins d'un mètre, entre 50 et 50 cm et un mètre par jour. Donc les travaux étaient prévus pour 30 ans. Et puis, les montagnards, je vais évoquer un nom que les montagnards connaissent bien, c'est Sommelier. Pour moi, jusqu'à présent, ça restait une montagne qui est au-dessus du Fréjus, à plus de 3000 mètres, le pic Sommelier. Mais M. Sommelier avait été un ingénieur qui a fait breveter une perforatrice à air comprimé. Et là, bien sûr, ça a été plus vite. Alors, on verra tout à l'heure l'importance de cette rapidité à percer par rapport au chemin de fer Fell. Alors, au début, il y avait une première machine, je pense que c'était aux alentours, un peu après 1860. Et puis, ensuite, plusieurs machines. Donc, c'était des machines. L'intérêt de ces machines, c'est qu'elles étaient à air comprimé. La nouveauté, l'innovation, c'était d'utiliser l'air comprimé pour perforer. Alors, c'était assez loin de la perceuse que l'on a à main maintenant. Une machine faisait 280 kilos. Et il y en avait une dizaine, 10, 15, qui étaient montés sur un affût d'une quinzaine de tonnes. Et il fallait en gros 40 personnes pour utiliser cette batterie. En gros, s'ils ont refait un tunnelier. Et alors, dans les 40 personnes, il y avait 5 enfants. Donc, ces enfants étaient nécessaires pour aller se glisser dans la machine, pour aller la graisser. Donc, des enfants, je pense qu'ils n'avaient pas trop à l'école.
Et on disait que la progression était de 50 à 61 mètres par jour. On avait une idée du nombre d'heures travaillées par jour, ou c'était en permanence, il y avait des équipes qui se
réveillaient. Je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'ouvriers italiens qui l'ont construit. Et sur l'ensemble du chantier, il y a eu 48 décès. Ce qui n'est pas, pour les moyens de l'époque, je trouve, enfin c'est peut-être curieux ce que je vais dire, c'est 48 de trop, mais ce n'est pas énorme. Alors, il y a eu 48 décès, plus 5 morts qui ne sont pas morts dans le tunnel, ceux-là, mais c'est un ouvrier du tunnel qui, par dépit amoureux, avait fait sauter le stock de poudre. Ça a fait 5 morts.
Ah, il valait mieux que plusieurs des ouvriers n'aient pas de dépit amoureux.
Exactement.
Parce que, d'accord.
Donc le tunnel a été inauguré en 1871.
Oui, donc finalement, ça a duré moins que prévu.
Ça a duré moins que prévu du fait de la perforatrice à air comprimé, puisque les travaux étaient partis pour durer 30 ans. Ça a duré 14 ans. Donc les trains sont passés dedans, machine à vapeur, bien sûr, ce qui n'a pas été sans poser quelques difficultés pour évacuer les fumées. Parce que l'ouvrage était très long pour l'époque, c'était le plus long d'Europe à l'époque. Et chose importante, les rampes sont très élevées. Donc il faut énormément de puissance pour passer le col du Mont-Cenis, le tunnel. Ceci dans une ventilation...
Pour l'époque, sans doute pas performante.
Pas très performante, bien sûr. Peut-être pas un soufflet, mais pas loin peut-être. Donc très rapidement... La décision a été prise d'électrifier la ligne de train, et ça s'est fait en 1915. Donc c'est très, très récent, puisque dans les années 60, il y avait encore des trains à vapeur dans la banlieue parisienne. Voilà ce qu'on peut dire.
On va peut-être écouter une chanson.
Voilà. Après, on va parler du tunnel... Du chemin de fer Fell.
Alors aujourd'hui, on va écouter des artistes piémontais, puisqu'on est
piémontais. On est dans le Piémont.
Puis on parlera aussi un peu de train dans toutes ces chansons. Le premier groupe que je vais vous faire écouter, c'est un groupe polyphonique de femmes à trois voix, qui s'appelle Ariondella, qui est très connu en Piémont, avec Samuela Gallinari, Maria Adelaide Negrin et Alba Spera. La chanson qu'on va entendre, c'est Sento il fischio del vapore. Bon, j'entends le sifflement de la vapeur, évidemment, de ces fameux trains vapeur. Et, alors, il semblerait que, comme toujours dans ces chansons qui ont été transmises oralement, leur origine n'est pas toujours bien définie. Elle est probablement inspirée par l'expédition italienne qu'il y avait eu en Albanie dans les années 14. Et c'était une époque, d'ailleurs, ce type de chanson entrait dans une des compositions souvent qui étaient antimilitaristes à cette époque. Et ce chant, comme beaucoup d'autres, avait été révélé par Giovanna Daffini, qui travaillait beaucoup sur la chanson traditionnelle, qui en écrivait elle aussi des chansons, et qui avait la particularité d'être mondine, c'est-à-dire qui travaillait dans les rizières. Et donc la chanson, on la situe dans la zone de Vercelli et de Novare. D'ailleurs, souvent les chansons du nord de l'Italie, qui sont liées, on va dire, aux mouvements sociaux, souvent elles ont comme fond les rizières. Elles naissent dans les rizières, toujours pareil, hein, l'Italie a beaucoup de rizières. Et on y évoque souvent les luttes de classe, l'émancipation de la femme. Et celle-là, donc, commence ainsi. J'entends le sifflement donc, de la vapeur du train. Et c'est mon amour qui s'en va, il est parti pour l'Albanie. Qui sait quand est-ce qu'il reviendra? Il reviendra pour ce printemps avec son épée ensanglée.
Il y avait une guerre, je crois.
Oui, bien sûr. Et puis, bon, disons que là, il y avait une décision qui ne plaisait pas à tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait des mouvements qui s'étaient créés antimilitaristes. Et s'il me trouve déjà marié. Oh, quelle peine, oh, quelle douleur, on imagine. Alors, le tunnel était déjà creusé, heureusement, hein, parce que tu nous as raconté une anecdote tout à l'heure. Oh, quelle peine, oh quelle douleur. Mais quelle mauvaise bête est est l'amour. Je resterai plutôt sans manger, mais je veux continuer à faire l'amour. Autant dire, si mon mari est pas là, tant pis. Hein. il faut vivre à sa façon. Je veux faire l'amour le matin et le soir, quand arrive le printemps est retourné, mais mon amour m'a abandonné. Eh oui, c'est parti. Hein. Voilà. Mais après, ça se gâte un peu. Hein. Ils m'ont enfermé dans un couvent, ils m'ont taillé. Ils m'ont coupé les cheveux, mes cheveux qui étaient blonds et frisés et beaux, ils m'ont coupé toutes mes beautés. Ce chant était un chant de mondine, c'est-à-dire de travailleuses saisonnières dans les rizières de Vercelli et de Novarese. Et donc, Sento il fischio del vapore et c'est Ariondella.
Sento il fischio del vapore, è il mio amore che il va via. Sento il fischio del vapore, è il mio amore che il va via. E l'è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. E l'è partito per l'Albania, chissà quando ritornerà. Ritornerà sta primavera con la spada insanguinata. Ritornerà sta primavera con la spada insanguinata. E se mi trova già maritata, oi che pena, oi che dolor. E se mi trova già maritata, oi che pena, oi che dolor. Oi che pena, oi che dolor. Che brutta bestia è mai l'amore. Oi che pena, oi che dolor, che brutta bestia è mai l'amore. Starò piuttosto senza mangiare, ma l'amore la voglio far. Voglio far mattina e sera finché vien la primavera. La voglio far mattina e sera finché vien la primavera. La primavera è tornata.
ma il mio amore mi abbandona. La primavera è tornata, ma il mio amore mi abbandona.
Mi hanno chiuso in un convento e m'han tagliato i miei capelli. Mi hanno chiuso in un convento e m'han tagliato i miei capelli. Ed erano biondi e ricci belli, m'han tagliato le mie beltà. Ed erano biondi e ricci belli, m'han tagliato le mie beltà. M'han tagliato le mie beltà.
Voilà, on va changer, si j'ai bien compris, d'époque.
On va, non, on va pas changer encore. De voie de chemin de fer, voie de chemin de fer. On va rester dans la même époque.
D'accord.
Alors, on a dit tout à l'heure que le tunnel du Fréjus actuel, qui a démarré en 1857, était parti pour 30 ans de travaux. Et en 1865, il y a quelqu'un qui propose à Napoléon III de construire une ligne de chemin de fer entre Saint-Michel-de-Maurienne et Souza, mais sans faire de tunnel, c'est-à-dire en passant par la route Napoléon, en passant par le col du Mont-Cenis. Alors, c'est un train qui est beaucoup plus petit que celui qui va passer par le col du Mont-Cenis. Il est plus petit. D'ailleurs, on en voit encore des traces quand on passe, quand on descend sur l'Italie, sur la droite, après la frontière, il y a un tunnel qui est tout petit et manifestement une voiture ne peut pas y rentrer. Donc, c'était l'ancien tunnel Fell. Fell, c'est le nom du système, on va dire.
De fabrication.
Oui. C'était bien sûr un train à vapeur. Donc Napoléon III, qui aimait bien les innovations, est intéressé parce qu'il se dit, plutôt pendant les 30 ans de travaux, on a de quoi quand même aller beaucoup plus vite. Et quand même, Napoléon III croyait beaucoup dans le percement du tunnel actuel. Et il a pris soin de faire mentionner dans le contrat passé avec la compagnie Brasset, donc qui allait exploiter cette ligne, que l'exploitation de la ligne serait interrompue dès la mise en service du tunnel. Donc, c'est une sorte de concession qu'il y avait. Les concessionnaires se disaient de 1865, donc les travaux étaient commencés depuis 8 ans, il reste 22 ans, ça y est. Mmh. Mais avec le marteau piqueur à air comprimé, les travaux étaient plus vite. Donc le chemin de fer n'a duré que de 1865 à 1871. Alors il fut mis en service le 15 juillet 68, oui, 65, c'était le travaux, mais il a duré 3 ans, en fin de compte. Les pentes étaient supérieures à celles du chemin de fer, puisqu'elles prenaient la route, donc c'est des pentes qui sont supérieures à 4-5%, enfin, surtout du côté français, côté italien, je pense qu'ils ne devaient pas suivre la route tout le temps. Ce train permettait de mettre 5 heures pour aller, au lieu de 12 avec la diligence, pour aller de Saint-Jean-de-Maurienne à Souza. Donc c'était un gain appréciable. Donc l'exploitation n'a duré que 3 ans. Et ça peut nous ouvrir une petite réflexion. Donc là, on a gagné 7 heures pour faire Saint-Jean-de-Maurienne-Souze. Le train à grande vitesse qui va être lancé bientôt, lui, va nous faire gagner moins de 2 heures, mettons 2 heures, entre Lyon et Turin. Mais le temps étant une denrée rare, ça n'a pas de prix.
Oui, et puis en proportion, c'est un peu pareil quand même. Parce que le Lyon-Turin...
Oui, en proportion, oui. Oui.
Très bien.
Voilà, donc on n'a pas dit grand-chose du chemin de fer Fell, mais comme il a duré que 3 ans, il n'en méritait pas plus, quoi.
Alors, oui, c'est effectif. Et puisqu'on parle toujours dans cette émission, on va parler tout le temps de train et du Piémont, on va entendre maintenant, donc toujours sur Couleur FM, 97.1, on va entendre Gian Maria Testa. Alors Gian Maria Testa, il a cette caractéristique qui colle complètement à notre émission, parce qu'il est piémontais,
Très bien.
Et il était chef de gare.
Ah.
Donc, que rêver de mieux pour illustrer l'émission d'aujourd'hui. En fait, son premier métier était chef de gare à Cuneo. Et il a même longtemps gardé une double activité, c'est-à-dire il avait peut-être des horaires un peu aménagés, mais il était chef de gare dans ses débuts de chanteur, parce que il voulait voir un petit peu ce que donnait le métier de chanteur. Et en fait, c'est quelqu'un qui voulait être au départ avocat. Il avait fait des études, c'est quelqu'un de brillant, qui n'a pas de soucis intellectuels, disons, pour réussir des choses. Il voulait être avocat, mais il fallait dans sa famille assez vite, les études d'avocat sont plus longues, il fallait assez vite gagner sa vie. Et puis, finalement il a passé des concours administratifs de la fonction publique. Et il est devenu donc chef de gare à Cuneo. Donc là, on va l'entendre dans une chanson qui s'appelle Il Viaggio, le voyage, qui commence ainsi. Je descendrai dans l'eau limpide de ce torrent jusqu'à ce que ma montagne devienne plaine, loin de ce ciel, si proche que je le touchais, jusqu'au point précis où le fleuve caresse la mer, mais qui sait où le fleuve rencontre la mer. Je saluerai toutes les étoiles de cette montagne, si petite et voisine, et je serai loin de ce ciel, si loin que je ne pourrai pas revenir, si proche du point où le fleuve rencontre la mer, mais qui sait où le fleuve rencontre la mer. Donc, Gian Maria Testa, Il Viaggio.
Dentro l'acqua di questo torrente, così limpida e veloce, scenderò. Fino a quando la mia montagna, fino a dove questa montagna si farà pianura. E sarò lontano da questo cielo, così vicino che lo puoi toccare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. Di questa montagna così piccole e vicine saluterò. Oh, fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto. Al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto, molto vicino a dove il fiume incontra il mare. Ma chissà dove il fiume incontra il mare. Thank you.
Gian Maria Testa, c'était peut-être un excellent chef de gare, mais il a bien fait de continuer dans la chanson.
Exactement.
Alors,
on va parler maintenant du Lyon-Turin.
Oula.
Donc, en
sujet délicat.
Lyon-Turin, c'est une voie nouvelle qui va mettre Lyon à 2 heures de Turin, alors qu'actuellement c'est à peu près entre 3 heures, 3 quarts et 4 heures. En gros, cette voie nouvelle va avoir plusieurs tunnels, un premier sous la Chartreuse, un autre sous Belledonne, pour déboucher directement dans la vallée de la Maurienne, et ensuite un grand tunnel de 57 km entre Saint-Michel-de-Maurienne et Boussoleno, qui est en aval de Souze. Alors, il y a deux aspects sur ce tunnel, on va dire un aspect technique, un aspect économique, et puis il y a un aspect culturel. C'est-à-dire que l'aspect technique, ben, c'est la performance de faire un tunnel de 58 km. L'aspect économique, c'est relier les deux métropoles que sont le Rhône-Alpes et puis la Lombardie. Et puis l'aspect culturel, c'est un peu les questions que se pose l'association NOTAV. Donc TAV, c'est Treno Alta Velocità, plutôt en Italie qu'en France. Alors, dans un premier temps, plutôt que de refaire toute une recherche sur le sujet, j'ai demandé à monsieur François Pelletier, qui est responsable de la communication d'une société qui s'appelle Lyon-Turin Ferroviaire, de présenter la ligne. Alors, cette société est une filiale de RTF et puis de l'équivalent italien de... Pas RTF, Réseau Ferré de France, RFF, mmh. Et donc peut-être RFI en Italie. Et cette société a pour objet de faire les études préparatoires simplement d'une portion du tunnel et puis un petit peu au-delà. Donc là, nous allons entendre M. François Pelletier dans une interview que nous avons enregistrée hier. Cette liaison, et en particulier ce tunnel, est sur la ligne Lyon-Turin. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt parler de Lyon, Lisbonne-Kiev ou Perpignan ou de Barcelone-Budapest, quelque chose comme ça ?
Vous avez tout à fait raison, il s'insère aussi dans un cadre bien plus large, un cadre européen. Depuis le début des années 90, c'est un projet prioritaire de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que pour l'Union européenne, c'est un maillon clé, le Lyon-Turin, sur des grands axes ferroviaires fret et voyageurs, du nord vers le sud de l'Europe, sur des axes donc grosso modo Londres, Paris, Bruxelles, Milan, Rome, mais aussi sur des axes ouest-est, et c'est une originalité du Lyon-Turin, donc de l'Espagne vers l'Italie du Nord et au-delà vers les pays de l'Est, donc depuis grosso modo Algésiras jusqu'à Budapest via Rhône-Alpes et l'Italie du Nord. Alors vous allez me dire pourquoi cette intervention forte de l'Union européenne à nos côtés. Bah, y a trois raisons. La première, c'est que l'Union européenne bâtit actuellement avec une grande ambition un réseau transeuropéen. Elle veut développer des grands axes ferroviaires à travers l'Europe, à travers l'Union européenne, pour le fret et les voyageurs, favoriser les échanges économiques. Ensuite, le deuxième objectif de l'Union européenne, c'est d'organiser le transfert de la route vers le rail, mettre les camions sur les trains. Et comme vous le savez, les objectifs là aussi sont ambitieux, puisque l'Union européenne veut transférer d'ici 2050 en Europe 50% du trafic routier sur les trains. Et bien entendu, en arrière-plan, pour les Alpes, il y a la mémoire des terribles accidents routiers dans les tunnels routiers qu'on a connus, notamment au Mont-Blanc, en 99, avec près de 40 morts. Et il y en a eu d'autres, évidemment, sur d'autres tunnels aussi graves dans les mêmes années. Et puis le troisième élément pour l'Union européenne, c'est pas le plus négligeable, c'est naturellement une contribution à la limitation de l'effet de serre. Et donc tout ce qui est transfert modal, comme disent les techniciens, le report de la route vers le rail, c'est bon pour l'environnement. C'est le cas aussi pour le Lyon-Turin, qui va permettre de réduire d'un million de tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre. Dans les Alpes, c'est important.
Le tunnel donc, qui vous occupe fait 55 km. Il y a eu un projet sous le petit Saint-Bernard, on va dire, pour faire court, qui faisait que 27 km. Quelles sont les raisons qui ont fait privilégier le tunnel de 57 km ?
Alors, Il y a eu beaucoup de projets alternatifs. Hein. Il y a eu aussi un projet sous le Mont Genèvre. Mais il y a plusieurs raisons, bien sûr, par rapport au choix du tracé actuel. La première raison du tracé par la Maurienne et le Vallée de Suse, ça s'explique par des raisons géographiques et économiques. Si vous passez par la Tarentaise et Val d'Aoste, vous ne débouchez pas à Turin, mais bien à l'est de cette métropole. Le passage par la Maurienne et Val de Suse, ça vous permet de servir directement deux des plus grands pôles économiques italiens que sont Turin et Milan. Et qui est importante, c'est que comme nos amis suisses qui construisent un magnifique tunnel aussi, le Gotthard, qui va être en service fin 2016, début 2017, qui fera la même longueur que le nôtre, 57 km, ou les amis autrichiens et italiens qui vont construire le Brenner, qui construisent le Brenner, qui fait 55 km aussi, comme pratiquement le nôtre aussi, on a à traverser des massifs très importants. Et en même temps, il y a un élément capital dans le projet pour toute cette nouvelle génération du tunnel ferroviaire dans les Alpes, c'est la question du dénivelé. L'objectif, c'est quoi? L'objectif fondamental, c'est par rapport au tunnel de Cime du 19e siècle, qui était construit haut dans la montagne, ces nouveaux tunnels, on les réalise avec pratiquement un profil de plaine, avec un dénivelé des pentes extrêmement limité, de l'ordre de 1,2% au maximum. Et l'objectif, c'est, avec ce profil de plaine, ça permet évidemment, ça va permettre de faire circuler au mieux les trafics ferroviaires d'aujourd'hui et de demain. Parce que demain, malgré les péripéties du fret que l'on peut connaître parfois, demain nous aurons des trains de marchandises de plus en plus longs. Aujourd'hui, souvent, ils sont limités à 750 mètres. On va avoir des trains de marchandises de plus en plus longs en Europe, en se rapprochant des gabarits américains. On va avoir apparaître des trains de gros containers qui ne circulent pas encore sur les voies ferrées. On va voir apparaître de plus en plus des trains d'autoroute ferroviaire transportant des camions jusqu'à 4,20 m de hauteur, comme Eurotunnel le fait déjà. Ça, c'est la révolution ferroviaire en marche et on l'oublie trop souvent. Donc, il faut des pentes très limitées. Or, les tunnels historiques, ces tunnels historiques, malheureusement, et c'est la même chose en Suisse ou en Autriche, ils ont des pentes terribles. Ils ont des pentes de 3%. Donc, ça entraîne des surcoûts énergétiques très importants dans les différents pays de l'arc alpin, de l'ordre de 40% pour les convois. Derrière, la question de la saturation de la ligne historique, la ligne actuelle, est un faux débat. Parce que, là, si on regarde aussi avec une vision historique, la ligne sera, de toute façon, de plus en plus inadaptée pour les trafics du futur. Là, on travaille pour l'avenir, hein. Mais le Lyon-Turin, ce n'est pas une lubie de la France et de l'Italie et de l'Union européenne.
L'état d'avancement du chantier, alors on en est où là actuellement?
Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons réalisé, côté français, 9 km de galeries, qu'on appelle des descendries, parce que ce sont des galeries d'accès routières qui permettent de rejoindre le niveau du futur tunnel ferroviaire.
D'accord. Donc le tube n'a pas commencé?
Actuellement, non. Mais ces galeries d'accès sont indispensables. Elles permettent actuellement, en amont, de mieux connaître la géologie du terrain, donc de mieux déterminer les conditions de réalisation du futur grand tunnel. Ensuite, lorsque le grand tunnel sera en cours d'excavation, ça va permettre aussi de lancer ce qu'on appelle des attaques intermédiaires. Donc on va pouvoir creuser non seulement depuis le portail d'entrée français et le portail d'entrée italien, mais on va pouvoir creuser aussi au pied des descendries. Donc on accélère les temps de réalisation.
D'accord.
Et puis nous avons engagé depuis fin 2012 l'excavation d'une galerie aussi d'accès en Italie, à la Maddalena de Chiomonte, dans le Val de Suse. Donc on a déjà réalisé 1 km sur les 7,5 km. Nous engagerons début 2015 l'excavation d'une galerie à partir du pied de la descendrie de Saint-Martin-la-Porte, donc en Maurienne. On va engager une galerie sur 9 km en direction de l'Italie. Alors, c'est une galerie qui a vocation à permettre la reconnaissance dans un secteur géologiquement compliqué, mais en même temps, de manière intelligente, les deux États, français et italien, et l'Europe, ont décidé que, puisqu'on devait creuser cette galerie de reconnaissance, autant la faire tout de suite au diamètre et dans l'axe d'un des tubes du futur tunnel, du grand tunnel.
D'accord.
Donc, on ne creuse pas pour rien, vraiment. On creuse pour la reconnaissance et on creuse en même temps le début du grand tunnel, sur 9 km.
Alors, une question qui me préoccupe assez, à titre personnel, j'aime beaucoup le service public, et on voit que toutes ces lignes de chemin de fer sont construites avec des financements soit européens, soit nationaux. Et dans quelques années, on peut imaginer, à la suite du grand vent de libéralisme, que ce sont des sociétés privées qui vont circuler sur ces trains. Donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte de socialisation des coûts et de privatisation des bénéfices avec ces grandes opérations du Gotthard, du Brenner et celui-là ?
Ah, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout parce que, justement, notre tunnel va se réaliser avec essentiellement de l'investissement public. Personne aujourd'hui en Europe ne veut revenir à l'approche de Madame Thatcher avec un financement exclusivement privé, comme on l'a vu pour le tunnel sous la Manche, avec pendant plusieurs années des conséquences financières difficiles. Donc ce sera un investissement public de la France, de l'Italie, de l'Union européenne. Et bien entendu, toutes les compagnies ferroviaires européennes pourront circuler sur ces voies, par ce passage, aussi bien des compagnies publiques comme la SNCF ou Ferrovie dello Stato en Italie, que des acteurs privés. Les exploitants seront publics et donc encaisseront aussi des péages, des droits de passage pour les trains, et donc c'est tout à fait significatif. Bon, sachant que dans l'investissement initial, l'investissement est essentiellement public, il y aura une part de, mais assez réduite, de partenariat public-privé pour l'équipement du tunnel. Mais néanmoins, ça reste, et c'est à souligner par rapport au tunnel sous la Manche, vous voyez, je crois que l'Europe a globalement tiré les enseignements, ça reste une opération essentiellement publique. Et c'est normal, on ne peut pas demander aussi à des acteurs privés, il faut quand même penser aussi aux intérêts des privés, on ne peut pas demander aux intérêts des privés de porter des opérations de ce type. C'est vrai pour les tunnels, c'est vrai pour d'autres grandes opérations publiques, avec quand même la longueur de temps qu'il faut pour le retour sur amortissement. Il faut quand même penser qu'on travaille pour le long terme. Très souvent, on a des polémiques sur ce projet qui sont liées à une vision à court terme, avec parfois des fonds altermondialistes qui donnent parfois une tonalité un peu catastrophique à l'avenir. Alors, il est certain que la situation économique aujourd'hui est difficile, mais il faut quand même se projeter dans les décennies futures. On travaille pour les enfants de nos enfants, c'est un ouvrage qui va servir pour les siècles futurs, pour plusieurs siècles, et une société qui n'a pas de projet, c'est une société qui se meurt.
Alors après l'avis de la société Lyon-Turin Ferroviaire, je disais qu'il y avait des aspects culturels dans le... dans cette ligne de chemin de fer, puisqu'il y a eu des réactions opposées, on va dire, de part et d'autre des Alpes. En France, c'est plutôt un calme plat, si ce n'est des quelques paroles pour ou contre, mais en Italie...
Enfin, dans la région, notre région, il y a eu quand même... Non, il y a encore des mouvements qui sont un peu effectivement... qui sont moins virulents qu'il y a quelques années. Et il y a encore des mouvements.
Mais en Italie, le groupement NOTAV
est très important.
Est très important et a un stand, mais un stand, c'est pas un stand, c'est une maison, je pense, délaissée et qui est ouverte à tous ceux qui veulent prendre des renseignements. Donc, en Italie, ces opposants aux trains à grande vitesse le font au nom de l'environnement local, le coût financier, la lutte contre la mafia, et puis aussi peut-être au nom l'histoire sociologique du Piémont.
Mafia, parce qu'il y a des entreprises
de BTP. De BTP,
d'accord.
Alors, pour parler de NOTAV, nous avons en ligne M. Maurizio Poletto, qui est actuellement dans le Piémont et à qui on va poser quelques questions. Bonjour, Monsieur Poletto.
Voilà, bonjour à tous. Avant tout, merci pour nous avoir interpellés et pour donner notre position, notre idée sur cette question.
C'est tout à fait normal, puisqu'on a eu la version des gens qui construisent, donc il faut avoir la version de ceux qui n'aiment pas. Est-ce que vous pouvez...
Ouais, peut-être que c'est normal en France, mais ça c'est un des premiers problèmes qu'on a vu tout le temps en Italie, que notre mouvement il a 25 ans, il est âgé de 25 ans, c'est 25 ans qu'on a commencé à poser des questions sur cette ligne, mais normalement les médias ne donnent pas des espaces. C'est pour ça que.
D'accord. Je dis ça. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous. Alors, nous allons disposer d'une dizaine de minutes en tout, donc il va falloir que vous soyez assez court dans les réponses. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le mouvement Notav? Quelle est l'origine sociale et géographique des personnes? Vous avez déjà commencé à nous dire qu'il a été créé en 1989, si j'ai bien compris.
Oui, même un petit peu en avant, mais quand même, quand il est devenu plus fort, on peut dire maintenant on a 23 mairies. Hein, de notre vallée, qui sont contre. Hein. C'est pas seulement un mouvement de citoyens.
Alors, quand vous dites de notre vallée, c'est de la vallée de Souza.
De la vallée de Souza, oui, que c'est la vallée qui s'est surtout concernée pour cette ligne, je parle pour l'Italie.
D'accord.
Et on a, c'est une structure qui s'appelle Comunità Montana, qui rassemble tous les maires de notre vallée, et la Comunità Montana, il compte, avec des techniciennes qui peuvent démontrer mieux que moi pourquoi on est contre. On a 23 maires qui sont contre et qui participent normalement à les manifestations, même avec le drapeau italien.
D'accord.
Je veux dire qu'ils participent à niveau institutionnel.
Alors,
on a plusieurs techniciens du Polytechnico de Turin qui sont contre, autres professeurs aussi de Milano et des autres universités italiennes.
Donc il y a des...
C'est pas seulement nous, mais on était en partie de l'Italie, qui l'a fait pour des étudiants, mais aussi des professeurs, pour des paysans, mais aussi pour des ouvriers, pour des jeunes, mais aussi pour des personnes âgées. On dit qu'on considère que c'est pas nécessaire de faire cette ligne, avant tout parce qu'on a déjà une ligne ferroviaire.
Alors, votre but est-il de demander de faire en sorte que les travaux soient arrêtés?
Soient arrêtés et de voir les autres possibilités. Que ça fait plusieurs années que notre technicienne, ils l'ont posé. Par exemple, on peut très bien faire des travaux, mais on va utiliser la ligne qu'on a déjà. On peut faire des améliorements dans la ligne, ça c'est possible. Bon, c'est pas moi que maintenant je peux dire les choses techniques, on a des techniques mais qui l'ont démontré tout ça. Autre question, c'est que cette ligne, il a déjà changé deux fois au minimum sans bout. Avant, on nous avait dit que c'était pour les marchandises.
Oui.
On a démontré que les marchandises, ça fait année pour année qu'on a moins de marchandises. C'est quelqu'un entre vous et lui, il vient dans la vallée, et je l'invite à ma maison, on va ensemble au matin, au soir, avoir les trains qui vont à passer pour la vallée des marchandises, et on voit toujours qu'ils sont vides, qu'ils n'ont pas de marchandises.
Oui, mais peut-être
ça,
qu'avec
peut-être que c'est pour la crise et tout ça.
Peut-être qu'avec le nouveau tracé, il y aura plus de marchandises dessus, si les gabarits sont plus gros.
Personne, il n'a jamais démontré ça.
D'accord.
De toute façon, personne, il a déjà démontré. Mais jamais démontré ça, surtout c'est un projet qui était étudié avant la crise économique. Et alors déjà la crise, il a tout changé.
Oui.
On n'a plus des usines dans la vallée, etc. On peut faire plein d'exemples. Ce n'est pas que nous, on est contre les travaux, mais nous, on dit qu'on peut faire des travaux qui sont utiles à les territoires, à notre territoire, mais aussi au territoire de l'autre côté,
votre, la France. Votre opposition est-elle de nature environnementale ou économique?
C'était économique. Et je cherchais de l'expliquer très vite, mais aussi par l'environnement, parce qu'on a amianto, on a uranium dans les terrains, et bon, on a plein de problèmes aussi d'environnement. Notre vallée, c'est déjà une vallée qui a une autoroute, il a déjà les trains, la ligne normale, et on a déjà plein des autres rues, etc.
Mais...
C'est pas un vallée qui est contre l'autoroute, contre, mais on est contre cette projet de train à d'autres vitesses. On n'est pas contre l'autre vitesse dans tout le monde, on est contre l'autre vitesse dans ces contextes.
Parce que une grande partie du parcours entre, on va dire, la frontière et Turin va être enterrée.
Ah oui, mais ils vont dans la montagne où on sait très bien qu'il y était de l'amiante, on sait très
de
bien que c'était de l'uranium, oui, de l'amiante, de l'uranium, etc. En plus, la ligne, quand il était étudiant, il était Lisbonne jusqu'à Milano, etc. Oui. Maintenant, Lisbonne, il n'est plus dans les parcours. On reste seulement Italie et France. Et
ah bah,
la France aussi, avec la courte des comptes français, il a posé des questions.
Nous avons eu tout à l'heure quelqu'un de Lyon-Turin ferroviaire qui nous disait que la ligne serait plutôt du style Lisbonne-Budapest, quoi.
Kiev, non?
Ou Kiev, oui.
Ah non, qu'est-ce qu'on sait dans la communauté européenne, c'est pas comme ça, mais bon, quand même. On ne peut pas dans 10 minutes et on n'a pas de, des documents qu'on peut l'expliquer. Bon,
d'accord.
Nous, on a les techniciens qui l'ont démontré plusieurs fois. Même était une chose qui s'appelle observatoire,
oui.
Où on a aussi des techniciens à nous à l'intérieur. Mais toutes les fois que notre technicien ou que notre maire, ils ont posé les questions, le gouvernement, il a dit, ah bon, alors ça va pas, on vous est d'accord, alors on peut discuter, bon, l'argent qu'on va donner, dernièrement qu'il parlait de nous faire payer moins l'essence et tout, mais c'est pas ça la question. Nous, on veut discuter d'un projet qui, à nous, nous va poser des questions d'environnement, etc. Mais à toute l'Italie, il va poser une question d'argent public.
Oui, de coût, du prix de revient.
Comme ça, voilà.
Alors, quels sont les... Attendez,
oui, j'ai juste une question sur l'environnement. Puisque vous parlez d'environnement, ce train-là... ce train-là, il éliminerait quand même beaucoup du transport qui se fait actuellement par camion, non?
Bon, je fais un exemple très simple. Ça fait une semaine, pas nous, mais une organisation qui organise la police nationale,
uh-huh.
Une organisation syndicale, je crois qu'on dit syndicale, je ne sais pas.
Oui, syndicale. Oui.
Voilà. Il a posé même la question par les ouvriers de la police qui sont à l'intérieur du chantier. Il a posé une question de la poudre qu'ils vont respirer. Alors, c'est pas nous qui on le dit. Maintenant, il le dit aussi la police nationale, qu'ils ont des problèmes avec la poudre, qu'ils vont respirer les policiers.
D'accord.
Ils ont demandé l'application d'une loi qui s'appelle 81 en Italie, que c'est une loi sur la santé publique.
Alors,
je reviens quand même à ma question sur les camions. Actuellement, il y a beaucoup de camions entre l'Italie et la France. Est-ce que si c'était effectivement un train qui était destiné, enfin une ligne qui était destinée au transport de marchandises, est-ce que ça n'éliminerait quand même pas tous ces camions qui sont quand même polluants
Oui, ça c'est la discussion que les Verts, surtout en France, ils avaient accepté comme idée pour accepter.
Oui, parce que...
le train. Mais je sais que dernièrement, aussi les Verts en France, ils se sont posé des questions.
D'accord.
Parce qu'on a vu que dans la vallée d'Aoste, par exemple, on a fait une politique différente. Ils ont numéré les camions qu'ils peuvent passer. Ils ont obtenu des résultats avec ça, qui n'étaient pas nécessaires de faire des trains, etc.
D'accord.
On peut dire on va éliminer des camions un train en 20 ans. Mais aujourd'hui, si on va faire ces travaux ici, on a tous les jours des dizaines de camions par la vallée. Alors, peut-être qu'on va avoir un peu moins de camions dans 20 ou 30 ans, parce que même LTF, il déclare toujours qu'avant 20 ans, on n'a pas terminé ça, et on va prendre pour 20 ans tous les jours des camions dans la vallée.
Quelles sont les actions que font le groupement NOTAV?
Alors, au moment notable, il a fait, bon, je peux dire de tout, on a cherché de faire. On a fait des pétitions à la Commission européenne, on a fait des pétitions à l'État national, on a notre maire, ils ont fait toutes les choses qu'un maire il peut faire dans la loi, aussi notre président de la communauté montagne, et aussi on a fait des grandes manifestations avec 30 000 personnes. Bon, je crois que la manif qu'on a vu plus de personnes était 70 000 personnes, et bon, des contestations.
Alors,
on a fait, après, ça fait 2 ans, on a acheté aussi le terrain on en fait, qu'est-ce que nous, on a fait des présidios, des lieux pour voir eux, qu'est-ce qu'ils vont à faire comme travaux et tout, et aussi pour chercher d'empêcher les travaux.
D'accord. Il y a actuellement un procès à Turin où des je crois que, alors d'après ce que j'ai lu, c'est des gens de Notave qui sont poursuivis pour terrorisme. Est-ce que vous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être poursuivis comme ça? Alors, je vous demanderai d'être assez court parce qu'il va, il nous reste plus beaucoup de temps.
Oui, oui, très vite, ils sont quatre qui ont cette imputation, mais je veux recorder qu'on a presque mille personnes qui, ils ont dans la part de l'État italien, des contestations. Il peut être des amendes, il peut être des petits procès. Et on est arrivé, ça fait quelques mois, à cette folie d'arrêter quatre jeunes et les accuser de terrorisme, ou au maximum, même s'ils l'ont fait, on n'a pas les preuves, même s'ils l'ont fait, mais même s'ils l'ont fait, qu'est-ce que l'État il dit qu'ils l'ont fait, il peut être des banques qui l'ont caché en compresseur.
Et qu'est-ce qu'on leur reproche?
Voilà, ils sont reprochés d'avoir brûlé un compresseur. Je ne sais pas si on dit compresseur, je crois que oui.
D'accord.
Un compresseur, c'est une machine dans le chantier.
Ah, un compresseur, oui, d'accord.
Un compresseur, voilà.
D'accord.
Alors, sur ça aussi, étaient des pétitions aussi en France, par exemple, Guadroupani, que c'est un écrivain des Noirs français, et beaucoup des autres, de Le Monde, Diplomatique et des autres, ils ont signé des pétitions en faveur des cadres.
D'accord.
En Italie aussi, c'était un très grand mouvement, que ce n'est pas seulement dans la Vallée, mais dans toute l'Italie.
D'accord.
Henri De Luca, Lucien Écrivain, aussi personnes de la télévision, du cinéma, etc.
Monsieur Poletto, on va s'arrêter là parce qu'on n'a plus de temps.
Voilà, c'est sûr.
Je vous remercie.
Merci.
Merci bien.
Au revoir.
Allez, au revoir.
Et moi aussi, au revoir, au revoir.
Voilà, donc l'interview de Monsieur Poletto du mouvement Notave. Donc il était content d'avoir une intervention sur Couleur FM.
Mais Couleur FM ne recule devant rien.
Et voilà.
C'est un vaste débat.
J'avais vu
le lancement de cette idée de Lyon-Turin. À l'époque, c'était Pininfarina, le carrossier, qui était venu faire un exposé à Lyon, non, mais c'est vrai qu'il y a de vraies questions.
Alors, pour compléter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet de LTF, Lyon-Turin Ferroviaire, et surtout à un numéro de l'Alpe qui s'appelait « Traverser les Alpes ».
Voilà, mais je crois qu'on a...
Débordé,
non, très peu. Non, on a beaucoup parlé. On a surtout entendu une déposition opposée, mais c'est toujours intéressant d'avoir les arguments de chacun. Donc, on va souhaiter à tout le monde...
De bonnes vacances.
On va se retrouver sans problème, je pense, l'an prochain sur Couleur FM, enfin la saison prochaine. Donc, bonnes vacances à tous, dans la joie, la bonne humeur.
Et le soleil. Au revoir.
Au revoir.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.